Voilà, il est à peu près l'heure, en continuant d'accueillir celles et ceux qui nous rejoindraient, je l'espère, parce que ils auront l'occasion de découvrir un livre réjouissant et étonnant, Chala la danse, premier roman d'Alia Daoud, paru à la rentrée littéraire de septembre, aux éditions Le Nouvel Attila. D'où son design aussi, c'est le truc avec les livres du Nouvel Attila, c'est qu'il faudrait vous montrer cette couverture qui se déplie, à l'intérieur de laquelle il y a des recettes de cuisine. C'est pas toujours des recettes de cuisine, c'est une des spécificités de ce roman-là, entre autres. Chala la danse, Dalia, c'est votre premier roman. Vous êtes initialement journaliste, vous l'avez été jusqu'à le début de l'écriture de ce livre, 12 ans rédactrice en chef de rue 89 Lyon, où vous êtes toujours basée, et région dans laquelle se situe ce roman. Alors, il est dit roman vrai, du coup, je ne voudrais pas poser la question du récit, mais effectivement, ce roman utilise, c'est aussi ce qui nous intéresse, des matériaux documentaires et documentés. Géographique, sociologique, et que vous pouvez vous-même avoir croisé dans votre propre existence. Il se présente même comme une chronique générationnelle, si on décide de le regarder sous cet angle-là. Sauf que ça s'échappe sans cesse. Et on va l'entendre, parce que vous nous avez gentiment fait la proposition, quand on vous a posé la question, de lire un petit peu un chapitre de votre choix. Je dis bien de votre choix, on va rentrer pas par le début, mais c'est aussi, paradoxalement, ce récit chronologique, un livre de scènes, voire aussi un album d'instantané, qu'on pourrait avoir le droit d'ouvrir de cette façon-là, sachant qu'il y a aussi une linéarité. C'est-à-dire que ce n'est pas un recueil de nouvelles, ce n'est pas tel que l'a fait Antoine Wauters, une suite d'anamnèses. Ça construit des récits entrelacés, mais pour autant, me semble-t-il, chacun de ces chapitres constitue en soi une scène pleine. C'est une des particularités, on y reviendra, parce que ce récit est à la fois chronologique pleinement, il démarre à l'installation d'une première génération d'immigrés globalement, mais tout ça évidemment demande à chaque fois être rectifié parce que pas tous, pas de la même façon, pas des mêmes endroits. Et puis la vie dans les années 80, mais surtout 90, de ce qu'on appelle cette deuxième génération, ses volontés, velléités, réussites ou échecs d'émancipation personnelle par rapport aussi bien à l'extraction d'un milieu social, d'un milieu d'origine, qu'à la vie de leurs propres parents. Donc il y a des ruptures générationnelles et culturelles à l'intérieur de cela. Mais c'est un récit collectif de tout cela. Parce que, et j'avais oublié de le dire, c'est avant tout l'histoire d'un village. C'est pas une histoire de banlieue au sens cliché, comme on a l'habitude de se les présenter, même si c'est un lieu à l'écart de la ville, donc un village qui pourrait être à côté ou en marge, mais c'est un village. C'est un village dans la campagne, avec des lotissements qu'on voit se monter de toutes pièces, qui sont montés là collectivement, avec un habitat collectif. Et ce que ça nous raconte, il y a quelques protagonistes, et on y reviendra, sur lesquels la focale est mise avec plus d'attention, mais ce que ça nous raconte, c'est d'abord un récit collectif, me semble-t-il.
Alors, bonsoir. Vous avez tout dit, Guénel. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Mais merci pour cette présentation très complète. Effectivement, il s'agit d'un récit que je qualifie de fresque de poche, parce que le récit démarre à la fin des années 60 à peu près et se termine à la fin des années 90, en 1998 pour être très exact. Et je m'intéresse plus particulièrement effectivement à la décennie 90 où les enfants nés 10-15 ans avant sont devenus des adolescents. Et c'est vrai que mon projet originel a pris cette forme-là, mais vraiment, au départ, moi, ce que je voulais, ce qui m'intéressait, c'était de parler de ces adolescents. J'avais envie de traiter de ce qu'on appelle des bromances, des amitiés entre jeunes garçons plus spécialement, mais il s'avère qu'il y a aussi beaucoup de filles, parce qu'il y a une galerie de personnages, qui se terminent très mal. Voilà. C'est ça l'impulsion d'écriture, c'était vraiment m'intéresser à eux, et ça résonnait effectivement avec ma propre enfance et adolescence. Est-ce que je lis maintenant ou
Je vais vous poser une autre question avant. Parce que, comme je le disais, ce que vous allez nous lire, c'est un chapitre qui s'appelle « La biquette » et dont on reparlera pour essayer de survoler un certain nombre des spécificités formelles et thématiques de ce récit. Mais je reviens sur l'histoire d'organisation, parce que j'ai dit quelque chose tout à l'heure qui peut vraiment avoir l'air bizarre, c'est-à-dire c'est chronologique et ça ne l'est pas. Les premiers chapitres, le premier s'intitule « Le Lama ». C'est juin 1983 dans un village au nord de Lyon. Le deuxième, juin 1969, parcelle agricole dans Chambon, donc là où va se situer le village. Et puis le troisième s'appelle « Le Lait ». C'est juillet 1983, espace aérien algérien. Donc on a déjà fait un flashback. Et puis le quatrième, c'est année 1970-1980, cité Brocard Frères. Le cinquième, c'est septembre 1983, parking Brocard Frères. Puis 1984, parking Brocard Frères. Puis ça devient un peu plus classiquement linéaire, 1989-90. Et une grande majorité, je ne sais pas, presque une moitié du récit se situe sur les années 96-97-98, l'apex dramatique. Donc ça devient chronologique. Sauf qu'à l'intérieur de chacune de ces années, 96 par exemple, ou 97, où il y a 7, 8, 9 chapitres, on fait aussi des sauts dans l'année. On est au début de l'année, à la fin de l'année. Donc c'est ça que je voulais dire en disant chronologique et pas. Et ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est pas commun. C'est pas commun parce qu'à la fois ça arrange, enfin je pourrais citer Georges Perec, à la fois ça arrange et ça arrange pas, ça arrange et ça dérange en même temps. Et donc c'est une manière de raconter l'histoire qui est assez spécifique. De fait, je vous pose la question du pourquoi cette organisation, mais qui forcément contient ce comment, le comment vous avez fait.
Alors c'est un bazar organisé, je dirais. Dans mon idée, j'ai travaillé par cercle concentrique, c'est-à-dire que à partir de ces adolescents, je me suis dit, il me semble que pour faire un roman, plusieurs idées doivent se confronter les unes aux autres et se combiner. Donc la seule idée de parler d'une adolescence dans les années 90, non seulement ça a été largement fait, mais en plus de ça, ça me semblait pas suffisant. J'ai pas du tout ce qu'on appelle une écriture contemplative. Voilà, moi j'avais envie qu'il se passe des choses en fait. Et ce qui m'a semblé assez évident, c'était de dézoomer et peut-être de m'intéresser à leurs parents. Et puis de dézoomer encore, parce que tous ces gens-là habitent dans un petit lotissement ouvrier, de m'intéresser plus largement au village dans lequel ce lotissement se trouve, le lotissement ayant été bâti par le patron arménien d'une petite usine de tissage qui a été bâtie à la fin des années 60, justement, dans le petit village, de manière un petit peu particulière, puisque lui aussi, il va rencontrer des problèmes avec les gens du village quand il veut s'installer. Mais bon, ça, c'est le début du roman. Et avec toute cette galerie de personnages, je me suis dit, comment est-ce que tu vas t'en sortir ? D'ailleurs, pour tout vous dire, excusez-moi, je digresse très souvent, mais pour tout vous dire, quand j'ai envoyé mon manuscrit à différents éditeurs, j'ai eu trois réponses très rapides. Donc j'ai été évidemment ravie. Mais une grosse maison d'édition m'a dit, on est très intéressé. Donc c'était merveilleux. Elle m'a dit, en revanche, il va falloir resserrer, quoi. Il va falloir resserrer, il va falloir tirer le fil d'un des personnages qui me semble être parmi les plus importants, un jeune garçon qui s'appelle Bassou Ben Bassa. Et cette allitération est importante. Donc voilà, l'idée, c'était peut-être d'aller plus autour de lui. J'ai voulu travailler avec le nouvel Attila justement parce que lui m'a poussée à grossir encore, à fleurir encore à tout ce paysage-là. Donc c'était pour moi important en fait de conserver cette galerie. Et la façon dont j'ai travaillé était assez rigoureuse en réalité. J'avais plusieurs documents de travail ouverts en permanence, dont des fresques chronologiques dans lesquelles j'insérais à chaque fois les éléments. Et il fallait que chaque élément trouve une résonance ailleurs, dans un autre chapitre. Ce qui fait que j'ai disséminé comme ça. Alors, je ne sais pas forcément si on s'en rend compte parfaitement à la lecture, mais je crois que quand on s'en rend compte, c'est assez réjouissant. Il y a une espèce comme ça de jeu de piste, en fait, qui se fait dans le roman et qui est tout à fait voulu, évidemment. Tout était inscrit dans cette fresque chronologique et j'avais par ailleurs aussi des fiches d'identité pour... Alors ça, beaucoup d'auteurs l'utilisent, hein, le pratique. Des fiches d'identité pour chaque personnage et pour certaines, elles étaient extrêmement touffues. Il y en a, pour certains personnages, ce serait presque une nouvelle, en fait. Je réfléchis d'ailleurs, pour certains d'entre eux, à peut-être grossir encore les choses pour produire peut-être quelque chose d'autre, mais enfin, même si ce n'est pas du tout mon travail d'écriture actuel. Voilà. Donc, j'ai travaillé vraiment de manière très précise. Le bazar est bel et bien organisé.
Merci. Les choses en entraînent d'autres, je n'ajoute pas une question tout de suite, parce qu'on finira par ne pas tenir la promesse de la lecture. Je vous propose de nous lire du coup le chapitre en question, okay, qui s'appelle La biquette, si vous voulez bien. C'est page 67 de mémoire. Oui, il était écorné, il était au bon endroit. Vous pouvez enlever la reliure. Hein, c'est...
Oui, c'est vrai. Ça pourrait être jeté. Alors, je ne l'ai jamais lu encore, celle-ci. À voix haute. La biquette, janvier 1995, parc municipal. Bassou préférait généralement rejoindre Julien au parc et laisser sa famille là où elle était. Mais il devait supporter de voir Toufik Taïeb débarquer les mains dans les poches, mal fagoté malgré ses vêtements de marque. Sa mâchoire ballante, son air de crapaud endormi et sa façon de respirer bouche ouverte lui faisaient honte plus encore que s'il avait été son frère. Comme ils venaient tous les deux du lotissement, Bassou craignait qu'on ne les mît dans le même sac. Ses cheveux presque blonds et son nez parfaitement rond lui donnaient, c'était comme ça depuis la petite enfance, plus de chances de passer au travers des invectives. Les copains du village disaient « beurre » plutôt qu'arabe, auquel il ne recourait que pour être très insultant. À la maison, on en disait de bien plus salé. Bassou préférait que cela tombât sur un autre. La plupart du temps, personne ne faisait attention à Toufik, qui ricanait aux blagues avec quelques secondes de retard, en poussant son rire trop fort. « Bic Bic va vient de Cavon pravendre », on diravait. Bic Bic, ou Biquette, lui avait été attribué en surnom, diminutif de Bico, semblait-il. « La vôtre m'avongavole, m'ave d'avon envavie, d'ave lavui, m'avêtre d'ave javifle ». Toufik avait l'impression que ce javanais inaccessible était spécialement utilisé en sa présence, mais continuait de rejoindre le groupe, estimant avoir droit à sa dose de glandage. Tranchant dans les syllabes, ils intercalaient entre la consonne et la voyelle des « aves escamoteurs » à une vitesse fulgurante, réglée sur leur volonté d'inventer le baragouin le plus codé. Au collège, cette langue de feu avait valu des heures de colle à ceux qui, si virtuoses étaient-ils à la manier, restait assez naïf pour la croire inaudible aux oreilles des profs. Les non-initiés, dont Bassou et Julien faisaient partie, assistaient démunis à des conversations entièrement conduites dans ce jargon. Les filles en étaient tout à fait exclues. Aucune ne l'avait appris. « Vous avez l'air de gros golemons quand vous parlez comme ça », leur avait dit Vanessa Maligex, qui, pour la peine, fut traitée de gravos pavut. « Rave gavarde, cavom avant la maveuf favestaville, elle ave, pavortave, save cavouillave. » Qu'avez-ce qu'avait veut, va veut, qu'avons la va bayouva, ava, plusieurs. Vanessa, qui avait compris la teneur générale du propos, les avait rembarrés. Elle ne se laissait jamais insulter et roulait les joints mieux que la plupart d'entre eux. Ils étaient une quinzaine, parfois jusqu'à deux fois plus quand les villages voisins s'aggloméraient, sans convenir d'un horaire précis, qui se retrouvait sur les bancs de béton armés, traitement antidégradation, les après-midi sans match de foot ni tenaille familiale. Les mieux lotis chevauchaient un biwiz, Yamaha, rutilant, une clope entre les doigts comme s'ils étaient nés avec cette manie. La plupart n'avaient qu'à regarder les albums de famille pour avoir une idée de ce à quoi ressemblerait leur vie d'adulte. La plupart accepteraient un jour le cadeau qui leur était offert, de poursuivre une lignée dans le village, à l'abri du tumulte des villes surpeuplées et mal peuplées, dont ils ne connaissaient que les commentaires qu'en tiraient leurs parents. En attendant, le meilleur moyen de ne pas finir copie conforme était encore de ne pas se faire comprendre d'eux. Le parc était divisé entre des terrains de basket sans ligne au sol et des buttes de verdure ponctuées d'arbres hauts et de buis touffus. Au centre, un tourniquet, un toboggan et une balancelle tape-cul subissaient les assauts du groupe qui suspendait ses jambes et ses bras trop grands. Au fond, un cabanon de béton avait un temps servi de buvette pendant les fêtes de village. À cause de multiples dégradations et d'un incendie, son rideau restait fermé sur ordre du maire. La petite bande montait parfois sur son toit pour se donner une vue et des sensations. Jean-Michel Charbonne, le garde champêtre, les avait un jour surpris. Bassou l'avait vu arriver, reconnaissable à son képi, et il avait gagné 2 entorses en sautant du haut des 2,50 m du cabanon. À la fin de ces longues après-midi narcotiques, Toufik attendait de faire le trajet du retour avec Bassou, qui espérait l'inverse. Monsef Tayeb, poussé par Montserrat, venait parfois lui-même récupérer leur fils. Il arrivait vêtu de sa blouse de travail, qu'il ne quittait jamais. Sans elle, on ne l'aurait pas reconnu. Au moment de l'embauche des ouvriers à l'usine Brocard Frères, on leur donnait le choix entre une cotte classique, une salopette à manches longues avec glissière s'ouvrant du col au pubis, et une blouse fermée jusqu'au genou par des boutons pression. Le tissu des 2 bleus de travail était le même, solide et lavable à l'infini. Le père de Toufik avait opté pour la blouse, pour ses grandes poches dans lesquelles tenait ses lunettes et ses paquets de gauloises, et la portait en permanence au-dessus de ses propres pantalons, y compris pendant ses jours de repos. Ainsi accoutré, lunettes double foyer sur le nez, pour ne pas manquer son fils, Monsef se tenait à bonne distance des adolescents, conscient de l'incongruité de sa présence à cet endroit, et agitait la main dans l'espoir que Toufik, presque aussi myope que lui, le prit en compte. Plus jeune, Bassou n'avait pas été aussi incommodé par son voisin du lotissement, et il avait même répondu à ses envies saugrenues. Dans les moments de calme, Toufik cherchait toujours à livrer le poids de sa tête à quelqu'un, trouvant un support sur des genoux ou une épaule. Bassou l'avait souvent laissé faire. Il lui était même arrivé de rouler des mèches de ses cheveux pour lui former des nœuds affectueux derrière les oreilles. Du plus loin qu'il se souvint, Toufik s'était toujours échiné à se fourrer dans des situations impossibles et risquées. Une après-midi, Hamza Tayeb, le cousin de Toufik, l'avait encouragé à descendre à vélo la pente raide qui dégringolait du parking. « Vas-y, on l'a tous fait !» avait-il menti. Toufik avait serré dans ses mains les poignées du guidon, à cheval sur sa monture impatiente. Seules les pointes de ses pieds touchaient le sol, qu'il avait relevé pour se lancer sur le versant, tellement abrupte que les roues eurent à peine le temps de fonctionner. 1 mètre ou 2 séparaient le bas de la butte et le mur de la maison de Hamza. Le vélo, qui n'avait pas eu l'espace de bifurquer ni de poursuivre sa route, s'était écrasé contre le crépi. Les enfants avaient glapi de ravissement en voyant Toufik se relever, les jambes et la moitié du visage griffés au sang. Il s'était éloigné en se tenant le bras, abandonnant son vélo plié. D'après ses hurlements, il avait dû souffrir atrocement. Les autres avaient continué à jouer sur le terre-plein et l'après-midi s'était achevé sans chahut. Plus tard, en classe de CM1, Toufik ne fut choisi par aucun des groupes d'élèves formés pour animer le spectacle de fin d'année. Ne renonçant pas à son passage sur scène, il prit le parti d'une performance individuelle. Le grand jour, Toufik avait saisi le pied du micro à 2 mains et chanté, faux, Hélène de Rock Voisine. L'amour sur la plage désertée, nos corps brûlés enlacés, comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin, là-bas, là-bas, était sorti de sa bouche en chœur, tandis qu'il fermait les yeux devant la salle stupéfaite. Ils avaient désormais 14 ans et Bassou rentrait chez lui, exaspéré, soit par le tableau donné par Monsef Tayeb venant chercher Toufik, soit par le trajet qu'il faisait aux côtés de cet encombrant jacasseur qui commentait les moindres détails de l'après-midi. Il en aurait pleuré. Et sa mère qui lui demandait d'être compréhensif. Lala répétait « Miskine, il faut l'aider, il habite à côté et vous avez le même âge. » Comme si les 2 constats avaient un rapport. « Sois gentil avec lui, fais pas des histoires. » préconisait-elle à son fils, qui ne comptait pas garder sa répulsion par devers lui encore longtemps.
Merci Dalia pour la lecture. Merci Charline et Morgane pour la traduction en langue des signes pour avoir signé ça. Et on s'est posé avec elle en préparant la question de comment traduire. Et bien ce sera la première question depuis cet extrait. Ce qui apparaît là, avec le javanais, c'est de l'étranger dans la langue. Et le livre, il est écrit comme ça, dans une langue soutenue, littéraire, construite, architecturée, phrasée, mais émaillée sans cesse. Là, c'en est un exemple très frappant. Mais d'ailleurs, la citation musicale pourrait en être une autre forme d'exemple, puisqu'il y a toutes sortes de musiques, toutes sortes de chansons, vraiment toutes sortes. Si on a des qui me reviennent en tête.
IAM, voilà. Pascal Obispo.
Oui, et puis des choses sur lesquelles les pouces en avant, truc en arrière. Enfin voilà, de la musique populaire aussi. Voilà, il y a tout. C'est Babel, mais ça l'est vraiment aussi dans le détail du texte, dans la façon dont les langues étrangères et les langues du Maghreb s'importent dans le français sans être traduites ou mises en italique. Et ça, c'est un des aspects très significatifs de ce texte, formellement, mais ça me semble dire quelque chose aussi de cet aspect collectif que j'évoquais tout à l'heure.
Ça a été une discussion qu'on a eue avec l'éditeur sur est-ce qu'on met entre guillemets ou pas tous ces termes qui sont issus de...
Dès le titre, j'avais oublié de le
dès
dire.
Le
voilà,
titre,
c'est là dès le titre, Chalala danse.
Est-ce qu'on les met entre guillemets ou pas, tous ces mots qui viennent de l'amazir, de l'arabe, d'argot, stéphanois, le javanais aussi surgit à quelques moments. Désolée, j'ai buté parce que je le maîtrise mal, même si je l'ai quand même beaucoup écrit, mais à l'oral, c'est plus difficile. Et c'était important pour moi que tous ces termes-là entrent dans la narration de manière tout à fait fluide, sans forcément les signes qui les distingueraient du reste d'une langue qu'on peut qualifier de plus sophistiquée, oui, effectivement, plus littéraire. J'avais vraiment envie que les personnages soient aussi les patrons de cette histoire, qu'ils viennent parler quand ils voulaient, en fait, sans que je les introduise avec deux points, ouvrez les guillemets, et puis je vous parle, et puis ensuite c'est fini, je sors de scène, et quelqu'un d'autre reprend la place, c'est-à-dire le ou la narratrice. Voilà. C'était important. Alors c'est une méthode assez simple, c'est ce qu'on appelle le style indirect libre aussi, tout simplement, et il y en a beaucoup, et j'aimais que tout ça, c'était même très important pour moi que ce soit mêlé. J'ai souvent dit que ça, j'avais envie de pervertir la langue avec ces mots là et en fait c'est pas du tout le bon mot, ça la pervertit pas, je crois que ça... C'est important de le dire, quoi. Ça l'enrichit, en fait. Je crois que c'est le sujet, en fait, de ce livre.
Et oui, le sujet, c'est l'agrandissement, d'une certaine façon. Ce qu'on remarque aussi dans ce chapitre, c'est qu'il y a des focales sur des personnages. Chaque scène pourrait être une aventure qui arrive à un personnage, mais il y a toujours des arrière-plans, voire plus que ça, chaque personnage est toujours saisi dans sa relation. C'est-à-dire que c'est jamais une aventure qu'il a complètement seule, soit les conséquences, soit les péripéties qui arrivent dans ce qui est narré ont toujours rapport avec le collectif.
Alors, oui, ils ne sont jamais tout seuls, c'est vrai. Mais je pense que ça, c'est sans doute lié au lieu qu'ils habitent. Il s'agit d'un petit village en retrait de tout. Le train n'accède pas jusque-là. C'est très difficile d'en partir quand on est ado, sauf à moins d'être motorisé. Certains le sont, ce qu'on a entendu là dans le passage que j'ai lu. Avec, je crois que j'ai parlé des biwiz, des scooters. Mais tout le monde n'en a pas. Les filles, notamment, n'en ont pas, généralement. Voilà, donc le collectif, il s'impose à chacun de ces personnages-là, avec plus ou moins de bonheur, ça c'est sûr. C'est pas toujours très bien vécu. Mais y a des interdépendances, des interconnexions permanentes, et notamment entre les gens de ce lotissement, qui sont effectivement pour la plupart d'origine maghrébine. Alors il y a des gens qui viennent d'Algérie, d'autres qui viennent de Tunisie, puis il y a aussi des Espagnols, et une famille alors, que je qualifierais de française, mais ils sont tous français, les enfants sont nés là, voilà, ils grandissent ici. Donc il y a effectivement plein de gens très différents, mais toujours interconnectés. Et d'ailleurs, depuis que le livre est sorti, en fin août dernier, on m'a souvent posé la question de... Est-ce que vous parlez, est-ce que vous avez la nostalgie d'une époque révolue, d'une immigration qui, à un moment donné, peut-être était mieux intégrée ? J'ai pas du tout, moi, quand j'ai écrit ça, réfléchi à ça, vraiment. Donc j'ai été très surprise par ces questions-là. Et ben non, en fait, j'ai pas écrit un guide du vivre ensemble où il y a plein de choses qui fonctionnent pas, puis il y en a plein qui fonctionnent aussi. Mais c'est vrai que... On m'a souvent parlé d'une époque révolue, alors que j'ai l'impression que c'est juste un fil qu'on tire, en fait. Mais j'allais aller sur d'autres sujets, peut-être qui sortent du livre, mais, mais voilà.
Non, il y a effectivement la question du racisme et de la manière dont il apparaît. On peut en parler, mais après, j'aimerais aussi parler du lama. Je ne veux pas oublier... Donc, ça peut paraître hors sujet. Mais parlons de ça. La façon dont le racisme est là, quand même, comme par petite dissonance légère. Il n'est pas... Et là aussi, il faut juste y être attentif, mais c'est quelque chose qui surgit. Et d'ailleurs, les différents surgissent. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant pour quelqu'un qui, comme moi, n'est pas cette culture-là, comme mon patronyme l'indique, je suis breton depuis je ne sais pas combien de temps, je n'en tire aucune fierté particulière. En l'occurrence, j'ai une méconnaissance. Donc le livre m'informe, et il m'informe aussi des différents à l'intérieur des différentes communautés dites arabes. Tout le monde ne s'aime pas là-dedans, ce n'est pas du tout angélique, y compris entre les cousins tunisiens. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on parle de collectif qu'effectivement le livre est uniquement, serait uniquement fleur bleue à cet endroit-là. Il y a beaucoup de dissonances, mais c'est juste qu'elles ne sont pas organisées, et j'y reviens à ce que je disais tout à l'heure, selon les représentations les plus usuelles qu'on peut en avoir.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est super important ça, parce qu'en fait les gens ne font pas communauté. Je n'aime pas du tout ce concept là qui est utilisé à tort et à travers, parce qu'en fait il est pervers dans le sens où il va permettre de stigmatiser plus facilement un groupe. Alors on met qui on veut dans ce groupe là, dès lors qu'il nous plaît pas on peut le mettre dans ce groupe là. Évidemment, ces gens-là qui vivent dans le lotissement ne s'entendent pas toujours très bien. Tu prenais l'exemple de la famille Taïeb. Ce sont deux familles, en fait, qui portent le même nom puisqu'elles sont cousines et qui se vouent une haine ancestrale que je ne saurais même pas expliquer puisqu'elle date d'avant ma naissance. Elle date d'avant la naissance des gens qui sont dans le lotissement. Et ce n'est pas du tout le point. Simplement, ça donne lieu à des disputes spectaculaires au milieu du lotissement. Voilà, les gens s'observent au regard de leurs origines. Il y a plusieurs familles algériennes. Certaines viennent de Sétif, d'autres sont kabyles. Une famille est kabyle, une famille est, comme on dit, entre guillemets, chaoui. Et voilà, et en fait, chacun parle son propre darija, donc ce qui fait que les gens ne se comprennent pas toujours parfaitement entre eux. Voilà, il y a une multiplicité de nuances et de possibles échanges que j'avais envie de faire vivre au travers de ces personnages. Pour ce qui est de leur relation avec le reste du village, oui, le fait raciste est quand même... Il traverse le roman. D'ailleurs, ce qui a donné son impulsion à ce roman, c'est un événement en particulier qu'on découvre à peu près, je ne sais pas, ça doit être aux deux tiers, aux trois quarts du livre. C'est une voiture flambant neuve, une grosse Mercedes, que l'une des familles du lotissement a acheté et qui se retrouve taguée d'injures racistes très violentes et même de croix gammées très mal tracées avec des branches en trop. Enfin, c'est extrêmement perturbant, violent. Voilà. Et c'est cette image-là qui est une image que je connais. Là, pour le coup, autant il y a vraiment... c'est une fiction, mais il y a quelques éléments comme ça qui sont tirés de choses que j'ai connues, que j'ai vues. Et c'est ça qui a donné son impulsion au roman. Pour autant, tout n'est pas si simple. C'est-à-dire que il faut que je vous dise aussi que ce roman, il relève d'un secret, en fait, que j'ai sur l'identité de la personne qui a commis ce forfait. Donc le secret, apparemment, est toujours bien gardé, parce que même si j'ai disséminé plein d'indices dans le texte, j'ai vu que plein de lecteurs n'étaient pas forcément, ne voyaient pas forcément la même chose que moi. Donc ça c'est extrêmement intéressant aussi, parce que ça me semblait assez clair, mais ça ne l'est pas tant que ça. Bon, peu importe, ça ne gêne pas la lecture, et ça n'est pas l'objet le plus important de l'écriture et du texte. Mais ce que je voulais dire aussi sur cette question du racisme, c'est que moi, je l'ai traité comme une composante des relations entre les gens. C'est un stratagème narratif, en fait, qui va me permettre de dire plein de choses sur l'époque, sur les gens qui sont dans le roman, qui sont effectivement inspirés de gens que j'ai connus. Voilà, attention, je veux pas dire des choses qui seraient, à mon avis, tout à fait déplacées. Je parle du racisme tel que je l'évoque dans le roman. Je parle pas du racisme tel qu'il traverse notre société, notre pays, parce que là, je suis dans un état de, je vous avoue, de stress et de nervosité assez intense en ce moment. Donc là, je reste quand même sur le sujet du roman. Mais voilà, c'est un outil, en fait. C'est quelque chose qui va permettre de tirer les fils relationnels de manière plus ou moins fine.
C'est intéressant parce que tout à l'heure, vous avez dénigré le terme communautaire. Ça m'intéresse parce que j'ai un avis à un endroit, c'est que le livre n'est jamais non plus identitaire, en aucune façon que ce soit. Exemple, il y a là la biquette qui dit quelque chose du racisme, me renvoie à ce lama d'une manière un peu artificielle, mais pas seulement, parce que c'est un motif étrange, ce lama, qu'elle a au début, qu'elle a plus tard, et qui a une importance également dramaturgique. Et c'est comme s'il symbolisait l'étranger dans l'étranger. Enfin, et c'est ce qui est aussi Toufik, là. C'est-à-dire, il n'est pas intégré à l'intérieur de cette communauté, de ce qui ferait communauté, il n'est absolument pas intégré et déconsidéré en premier lieu par Bassou et par les autres.
Oui, le lama, c'est un des premiers personnages qu'on découvre dans le roman. Il est dans le premier chapitre. Il effraie des gens du lotissement, d'ailleurs, qui ne s'attendaient pas du tout à sa présence. Personne ne s'attend à sa présence. Et tu l'as parfaitement résumé. C'est vraiment un personnage qui va symboliser l'incongruité. À travers lui dire comment on fait quand on n'est pas forcément à la bonne place. C'est vraiment ce motif-là qui, d'ailleurs, sa destinée n'est pas forcément très, très heureuse, hein, au lama, mais il est acheté par la famille Chambon, qui est une famille paysanne. Parce que je m'intéresse évidemment aux gens du lotissement, mais comme les interactions se font avec l'ensemble du lotissement, eh bien, évidemment, il y a des personnages très importants aussi qui vivent en dehors du lotissement et qui ne sont pas ouvriers de l'usine, dont ce jeune Vincent Chambon, qui est un agriculteur qui hérite de la ferme de ses parents. Et son père avait acheté un lama parce qu'il avait pour projet de créer un camping, ce qui va donner lieu à des joutes et des disputes assez importantes au conseil municipal, puisque certains s'opposent à ce que ce camping soit créé dans le village. Il risque d'attirer les gens de la ville et peut-être même de la banlieue. Et d'ailleurs, sur ce mot banlieue que tu as évoqué tout à l'heure, je voulais juste te dire un truc, c'est que, pareil, il y a eu quand même pas mal d'articles, etc., autour de ce livre. C'était super, une belle exposition médiatique. Et j'ai noté que quasiment systématiquement, on parlait de petites banlieues ou de petites cités, alors que vraiment, je parle d'un endroit, c'est la pleine campagne. C'est-à-dire que, voilà. Et c'est comme s'il y a un espèce de glissement comme ça, d'image, un glissement sémantique autour de la banlieue, parce que comme si le fait que ces gens qui sont d'origine arabe, pour parler vite, en habitant ce village, transforment leur lieu de vie en banlieue, alors que ça n'est pas une banlieue, puisque ça n'a rien d'urbain. Ils souffrent, comme les autres, de l'éloignement de la ville et n'ont pas plus de moyens d'y accéder, en fait. Ils sont exclus aussi du mouvement global qui leur semble le plus intéressant, celui de Lyon. Mais voilà, et c'est comme si... Je l'avais dit ça aussi une fois, mais que comme si la banlieue devait être le biotope naturel de l'arabe. Et non, mais c'est fou, en fait.
Il doit y avoir un effet de métonymie, par exemple, sur les. Mais il y a un moment à Givor, des tours, mais c'est un chapitre, deux chapitres, c'est un passage, c'est une incursion ailleurs, et cet ailleurs-là, à mon avis, vu la puissance des a priori et des représentations, peut-être englobe. Enfin, je sais pas comment ça s'est produit chimiquement dans le. Cerveau des commentateurs.
Et ben alors c'est fait tout à fait exprès, c'est-à-dire que j'évoque Givor et alors les cités de Givor, les Vernes, le quartier des Vernes qui existe vraiment. Là, pour le coup, autant je ne situe pas très exactement, je ne donne pas de nom à ce village, mais il y a des villes alentour qui sont précisément nommées, comme Lyon, Villefranche, Givor, Rieux-la-Pape aussi. Bon, et il s'avère que le jeune Bassou a des cousins qui vivent à Givor, et lui, quand il y va, ses cousins le trouvent un plouc fini. Il trouve que c'est vraiment un pecno de la campagne, mais c'est ce qu'il est, en fait. Et par ailleurs, quand Bassou parfois se retrouve face à des gens du village qui le déconsidèrent, enfin, c'est pas qu'ils le déconsidèrent, c'est qu'ils le considèrent comme un petit arabe de cité, alors qu'il s'exprime exactement comme leur fils. Il y a vraiment des choses dont il est difficile de se débarrasser. Et voilà, donc ils composent tous avec les images qu'ils projettent les uns sur les autres.
Il y a donc ce village, ce lotissement, et ce lotissement, il pourrait dater du 19e, puisque c'est né d'un patron, pas philanthrope, mais comment on appelait ça, le capitalisme...
Paternaliste.
Ouais. Comme il y en a eu beaucoup au 19e, parce que ça, c'est aussi, voilà, il y a différents motifs qui ne sont pas les motifs principaux, mais qui sont là, qui sont importants. Il y a une histoire ouvrière là-dedans. Oui. Il y a une histoire de disparition de classe ouvrière au cœur même du livre, qui entraîne, alors il y a quasiment trois questions hein, dans ma question, qui entraîne que les hommes vont perdre leur travail et qu'au moins deux femmes, précisément, vont de ce fait travailler. Alors que ce n'était pas prévu.
C'est vrai. Oui, il y a en toile de fond le déclin industriel français hein, et celui qui a concerné notamment la région de Lyon, mais pas que, aussi dans le nord de la France, la fin du textile en France. Donc, alors, pour comparer avec le Nord, il y avait des grands ensembles industriels qui se sont cassés la figure dans le Nord. Et en région lyonnaise, il y avait pas mal de petits patrons comme ça, autodidactes, je dirais, qui ont monté leur petite usine et puis qui l'ont fait fonctionner de manière tout à fait indépendante. Ça a été le cas dans ce village. Et ça fait partie des éléments historiques, en fait, hein, qui permettent de situer ces gens qui viennent en France pour travailler, tout simplement. C'est une histoire de l'immigration assez classique, à laquelle j'avais envie de donner des contours nouveaux, nouveaux en tout cas qu'on n'avait pas forcément vu, et puis surtout lui offrir des individualités, en fait.
Parce que c'est vraiment... Un village français, je cite le nom d'une série que j'ai pas vue, mais qui est devenue assez iconique, son titre même, pleinement. C'est-à-dire que symboliquement et littéralement, c'est un village français ancestral, avec des fêtes ancestrales auxquelles tout ce monde-là participe et vient apporter sa part.
Bah c'est l'image d'Épinal, en fait. C'est le village français avec son clocher, avec ses pâturages, avec ses fêtes de village, ses bals, ses guinguettes, son petit bar voilà, où tout le monde se retrouve. Moi, c'est l'enfance que j'ai vécue personnellement. Ce sont mes origines, en fait. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de la question identitaire. Effectivement, c'est pas moi, ça n'a pas vraiment été ma question. C'est pas comment se... Enfin, elle se pose en permanence en réalité, mais c'est pas ce qui a motivé le geste d'écriture. C'est pas du tout. Mais c'est vrai qu'elle se pose en permanence. Mais moi, j'avais vraiment très sincèrement l'impression de parler de mes origines, et elles sont celles-là en fait. Donc après. On peut aussi, évidemment, je m'appelle Dalia Daoud, donc on peut s'interroger sur les origines de ma famille, de mes parents, etc. Mais et il n'y a pas de problème avec ça, évidemment, loin s'en faut. Mais c'est une histoire française, en fait. Comment dire ? Il y a comme un grand récit, ce qu'on appelle le roman national, qui omet plein de choses. Et si moi, je peux en écrire juste une ligne avec ça... Je trouve ça pas inintéressant.
Et dans ce roman, comme il y avait trois questions dans mes questions, c'est de ma faute. Non, mais la question de l'émancipation féminine, quand même, parce que elle est des deux générations. Ouais. D'abord, ces femmes qui vont bosser, puis ça donne des scènes drôles, quoi. Enfin, enlevées. Ouais.
Alors là, je pense à Lala. Lala est la mère de Bassou. Et d'ailleurs, on m'a fait remarquer que son prénom était dans le livre, dans le titre, Chala la danse, Lala. Et il s'avère que c'est le personnage qui danse, justement. Elle danse très souvent et ses enfants espèrent en permanence qu'elle va danser. Ils disent « Challa, qu'elle danse », ce qui a donné ensuite ce titre « Challa, la danse ». Voilà. Et j'aimais beaucoup sa sonorité, le « Challala » aussi. « Challa » étant évidemment une contraction du « Inch'Allah », qui signifie « si Dieu le veut », et qui est utilisé un petit peu à tout propos, ça ponctue les phrases. En fait, il y a pas tellement de... Il a toute sa charge religieuse et mystique et disparaît totalement, tellement il est utilisé par les gens du lotissement notamment. Et donc Lala va se mettre à travailler à l'auberge qui se trouve dans la vallée. Et elle y va à pied et on la voit. Et c'est une nouvelle occasion pour moi de figurer les relations possibles entre les gens qui sont dans ce lotissement et ceux qui n'y sont pas. Et vraiment les gens de ce lotissement qui constituent une masse laborieuse, quoi. Les ados, à un moment donné, il y en a un, c'est Bassou d'ailleurs, qui va travailler au cimetière des animaux. D'ailleurs, si vous voulez savoir de quel village je suis originaire et qui a inspiré le livre, vous pouvez le trouver en cherchant cimetière des animaux, parce que je crois qu'il y en a très 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 peu en France. Ça se compte sur les doigts d'une main, donc on peut trouver assez facilement. C'est pas du tout un secret, hein. Moi j'avais juste besoin de m'éloigner de mon village d'origine pour rentrer en fiction. C'est pour ça que je n'utilise pas le nom du village où je suis née, où j'ai grandi. Mais je m'éloigne, je digresse. Et on parlait de Lala et l'émancipation des femmes qui se mettent à travailler quand leur mari ne travaille plus. Mais ce n'est pas forcément parce qu'ils ne travaillent plus, c'est parce qu'à un moment donné, Lala, pour ce qui la concerne, elle en a besoin parce qu'elle se fait des teintures de cheveux qui coûtent cher et donc elle a besoin d'argent. Donc elle se dit, je vais aller bosser. Et elle regarde autour d'elle et oula, je me dis qu'elle a traversé la rue pour aller chercher du boulot. Je me connaissais pas ce type d'élan. Les jeunes filles s'émancipent. Ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser aux adolescentes aussi, parce que je parle beaucoup de Bassou, mais elles sont importantes aussi dans le roman. Et ça me fait penser à une question qu'une journaliste m'a posée il y a pas très longtemps, là, pour une interview radio qui sera diffusée en mars, et qui me parlait beaucoup de deux filles qui s'appellent Myriam et Jeanne, qui habitent le lotissement. Elles sont très, très amies et effectivement, leur désir d'émancipation est immense. Et la journaliste voulait absolument me faire dire que je sentais, en plus je connais un tout petit peu les ficelles, etc., mais je sentais qu'elle voulait absolument me faire dire que ces filles d'origine arabe souffraient du joug parental et qu'on était à deux doigts de les forcer à se voiler. Enfin, voilà. Alors qu'en plus, ce n'est à aucun moment la question dans le... Mais je voyais qu'elle tirait ce fil-là absolument. Et ça m'a un peu attristée parce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas vues. C'est que, par exemple, on a parlé à un moment donné dans le passage que j'ai lu, on est évoqué Vanessa, qui est un personnage aussi que j'aime beaucoup. Et il s'avère que Vanessa sort avec le copain de son grand frère. et ils vont sortir ensemble, et c'est ce qu'on appelle un bébé couple. Voilà, parce qu'elle, elle a 15 ans et lui a 20 ans. Et voilà, et tout le monde est très heureux de cette union. Et il s'avère que quand elle quitte son petit ami, notamment parce qu'il est assez violent avec elle, il lui a flanqué une baffe un soir de bal parce qu'elle parlait à des copains. Donc bah voilà, elle a quitté, puis elle a 15 ans après tout. Bah, son père est furieux en fait. Il trouvait très très bien que sa fille soit casée alors qu'elle a 15 ans, etc. Et il y a une sociologue qui est connue, qui s'appelle Isabelle Claire, qui a beaucoup travaillé sur l'injonction qui est faite aux filles, notamment en milieu rural, de se mettre en couple, en fait. C'est vraiment quelque chose à se faire. C'est une façon aussi de les gérer, de les posséder, de savoir ce qu'elles font, quitte à ce qu'elles sortent avec quelqu'un, autant qu'on sache avec qui. Voilà, donc la journaliste, je l'ai renvoyée à ça en lui disant que toutes les adolescentes étaient concernées par une forme d'inquiétude, si ce n'est de prise de pouvoir quoi, sur elles.
Tout à fait. Et je ne vais pas poser une question de plus tout de suite, mais il vous reste un peu de temps, je pense. Il doit être pas tout à fait moins 10. Hein, pour une question ou deux, si vous voulez, avant de rejoindre Dalia en signature. La signature se fait à côté, là. Est-ce que vous avez une question qui n'est pas obligatoirement une question, hein, qui peut être un témoignage de lecture, une adresse?
Bah, vous ne l'avez peut-être pas encore lu, donc...
On espère que ça vous a donné envie. Alors, du coup, ça rajoute mon tout petit bout de question. Parce qu'il y a aussi, tout de même, des pères arabes qui joue le patriarcat, mais j'ai eu l'impression qu'il le jouait quasiment. C'est-à-dire que ce patriarcat s'effrite. Ouais. C'est un patriarcat qui donne une gifle, mais qui laisse les choses se faire.
Bah, ils sont, ces pauvres bons hommes, ils sont souvent, ça dépend qui, mais par exemple, le mari, Ismaïl, le mari de Lala, c'est un personnage que j'ai voulu burlesque, vraiment. Il a un côté extrêmement grotesque. J'ai eu pour ligne de conduite, pour fil rouge, l'humour. J'avais envie que ce texte, c'était vraiment une ambition importante. J'avais envie que ce texte soit drôle, en fait. D'ailleurs, c'est ce qui a, je pense, donné l'impression à plein de gens que je parlais d'une immigration heureuse ou des choses comme ça, parce que plein de gens m'ont dit qu'ils avaient éclaté de rire à plein de moments dans le livre. Et donc ça les a rendus eux-mêmes joyeux. Voilà, mais oui, il y a du burlesque chez pas mal de ces personnages, et notamment chez les ouvriers. On les voit aussi dans l'usine avant qu'elle ne ferme, parce que ça, c'est pas un secret, elle va finir par fermer, hein, comme la plupart des usines de tissage en France. Et on les voit les uns avec les autres vivre comme ils peuvent, quoi.
Eh bien, merci. Oui, on peut en rester là, d'autant qu'il y a une rencontre, ça enchaîne, hein, il y a une rencontre qui sera certainement très intéressante aussi avec Justin Morin et Mathieu Palin, qui vraiment travaillent chacun la question de la non-fiction et de la fiction littéraire, la question de la première personne. Donc voilà, ça c'est à 19h dans l'autre salle. Merci beaucoup Dalia, j'espère vraiment que ça vous a donné envie de découvrir le livre. Il est là, l'autrice est là. Bonne suite de festival. Merci encore pour la trad et pour le son.